When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
On est en train de se dire qu'on aime beaucoup notre générique. Bonjour, bienvenue sur notre antenne 90 minutes info. Débute dans quelques minutes, juste après le flash info de Clémence Barbier, puis la chronique écho d'Éric Deride-Mathet. C'est parti.
À Pontoise, un mariage tourne au rodéo urbain. En quittant l'hôtel de ville où avait lieu la cérémonie, les invités se sont livrés à de nombreuses infractions routières. Leur comportement dangereux a gêné le trafic dans la ville et a provoqué de nombreuses nuisances sonores. La municipalité a décidé de porter plainte et à l'avenir de faire payer une caution aux mariés. Attention aux orages, 27 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. 25 départements du centre-est et du nord-est sont en alerte pour des risques d'orages violents, tandis qu'au sud, le Gard et l'Hérault sont menacés par de potentiels orages stationnaires. Une amélioration rapide de la situation est prévue dans la nuit de mardi à mercredi. La crise énergétique que traverse actuellement l'Europe menace les professionnels du tourisme. Plusieurs visioconférences organisées par le ministère délégué au tourisme avec les acteurs du secteur ont eu lieu ce matin. La ministre Olivia Grégoire attend les pistes des opérateurs touristiques en matière de sobriété énergétique. Éric Deric-Mathen a recueilli leurs réactions.
Assureur d'intérêt général.
Fameux plan de sobriété hein, qui consiste à baisser la température dans tous les lieux touristiques, les chambres d'hôtel, il y a aussi les piscines qui sont concernées, les stations de ski qui vont devoir revoir une nouvelle fois leur facture électrique. Et bien effectivement, le monde du tourisme réagit difficilement. Alors ces mesures qui devraient être généralisées, on parle de bonnes pratiques à généraliser, pas simple à faire parce que dans ce domaine touristique, c'est vrai que le vert n'a pas toujours été la priorité. Donc ce sera appliqué, il faudra, mais les stations de ski commencent à s'inquiéter pour cet hiver puisque beaucoup d'entre elles sont en grande difficulté financière. Dans les resorts, les piscines, les bassins nautiques, certaines piscines, vous le savez, ont fermé. Dans d'autres cas, eh bien, le ticket qui était à 6 euros devrait passer à 18 euros. Bref, tout cela n'est pas simple. La Fédération de natation est d'ailleurs montée au créneau pour dire pas question de fermer les piscines. Donc on en est là. Peut-être y aura-t-il un nouveau bouclier tarifaire qui sera proposé. En tout cas, c'est ce que demandent les acteurs du tourisme. Pour l'instant, on sait seulement que le ministère de l'économie a annoncé une chose nouvelle, c'est que les aides accordées aux entreprises qui payent de lourdes factures électriques, plus de 3% de leur chiffre d'affaires, eh bien le guichet sera ouvert jusqu'à fin décembre.
C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
Allez, c'est parti pour le débat. Ravi de vous retrouver en ce mardi en compagnie aujourd'hui de Ludovine de la Rochère. Bonjour, merci bon d'être là. À vos côtés, Jean Garrigue. Bonjour Jean.
Bonjour Nelly.
Notre Jean Messia qui se trouve à côté de Florian Tardif pour nous épauler, commenter aussi toute cette actualité qu'on va vous soumettre aujourd'hui. On va commencer à ce qu'il faut bien convenir d'appeler la polémique du jour, ce fou rire peut-être puéril, suivi d'un commentaire ironique et qui passe assez mal. Christophe Galtier a-t-il perdu une occasion de se taire, en tout cas de ne pas répondre à la question qui lui était posée sur le mode de transport utilisé par les joueurs du PSG? Ce matin a-t-il fini par lâcher? On a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas finir par se déplacer en char à voile. Voilà la réponse qu'il a apportée à une question sur la possibilité de recourir au train plutôt qu'à l'avion. Si vous avez raté cette séquence, si vous avez tout raté depuis ce matin, regardez, c'est devenu viral. Le résumé est signé Maxime Lavandier.
Une question sérieuse qui contraste avec le rire de Mbappé. Invité à réagir au tweet du patron de TGV Intercité Alain Krakovic, qui interpelle sur le mode de déplacement de l'équipe, le coach parisien a été l'auteur d'une plaisanterie remarquée.
Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
Une boutade qui passe mal dans la classe politique. Il reproche notamment à l'entraîneur et l'attaquant leur manque de considération pour la cause écologique.
La réaction de Fabien Galthié et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique.
La réaction est affligeante, surtout de la part de l'entraîneur. Éclaté de rire. Et après, comme le fait M. Galthié, qui est un homme plus d'âge mûr, du genre ah « ouais, on y a réfléchi, on va y aller en char à voile », c'est affligeant.
Des propos qui irritent au sein même du club, alors que le PSG fait son entrée ce soir en Ligue des Champions face à la Juventus de Turin.
Ludovine de la Rochère, faut-il en faire une affaire d'État? Est-ce que c'est symptomatique de ce qui agite aujourd'hui la sphère politique? Ou est-ce que, tout au moins, comme je le disais, c'est un petit peu puéril de leur part?
Alors, je pense que la ministre n'aurait certainement pas dû réagir ni en faire un sujet. L'humour, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et même quand la situation est difficile, l'humour fait beaucoup de bien. Alors, effectivement, M. Galthié aurait peut-être pu ensuite reprendre, laisser un petit blanc, reprendre et dire plus sérieusement, voilà les contraintes, etc. Mm. Et montrer qu'il était solidaire, évidemment, des questions, même pas tant de climat que de manque d'électricité, de gaz que nous allons avoir dans les mois qui viennent et qui inquiètent tant les Français. Mais franchement, l'humour, c'est fantastique. Et on crève de manquer d'humour de plus en plus, tant les sujets sont tabous, on crée des polémiques, oui, c'est dramatique, on prend tout au pied de la lettre. Mais non, il en
alors,
faut
est-ce que c'était vraiment de l'humour ou, comme certains l'ont souligné, quand même ce fou rire, il était un peu gênant, un peu gamin, quoi, disons. Même si on se dit que ça ne va pas changer la face du monde, effectivement, et beaucoup sont revenus, ceux qui les soutiennent aujourd'hui au PSG disent ce ne sont pas les jets privés qui finalement contribuent le plus à l'impact carbone et qui vont changer la nature des choses, quoi.
Alors, bon, en matière d'humour, moi, je suis toujours présent. J'aime l'humour, j'aime les pointes d'humour.
Et ça, c'était de l'humour pour vous, alors ?
Ça fait partie de l'esprit français, quel que soit le sujet. Je pense que la légèreté, surtout en ces temps un peu troubles, la légèreté, le fou rire ne font pas de mal. Je ne comprends pas cette réaction étriquée de la ministre et d'un certain nombre de responsables politiques qui apparaissent un peu comme des tristes cires, des empêcheurs de tourner en rond. Bon, voilà. Maintenant, si vous voulez, il y a deux choses dans cette histoire. La première chose, c'est qu'ils prennent des distances avec un certain nombre de problématiques, ces joueurs, etc., parce que le message qui est envoyé, c'est on est des riches et on n'en a rien à faire de rien, et de toute façon, on fait ce qu'on veut. Y compris si on veut aller faire un Paris-Nantes en char à voile, c'est pareil comme si on pouvait faire Paris-Roubaix à la nage, enfin c'est du même acabit. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement dans tout un tas de quartiers desquels d'ailleurs Kylian Mbappé vient, la problématique écologique, si vous voulez, je ne suis pas sûr que ça soit l'une des préoccupations. Je veux dire, si vous allez faire une conférence sur le logement éco-responsable au Val-Fouré, je ne suis pas sûr qu'il y aura foule pour venir écouter ceux qui feront cette conférence. Donc voilà, y a la problématique, si vous voulez, écologique, c'est une problématique, je dirais, de riche, d'une certaine façon. Voilà, et sur le fond, on est bien obligé de reconnaître que comme la France est responsable de moins de 1% de l'émission de gaz à effet de serre, si demain toute l'activité de la France s'arrête, si on arrête de se chauffer, de rouler, de manger, de boire, ça ne changera strictement rien. Donc il faut arrêter de nous culpabiliser avec ça. Et dernière chose, par contre, c'est un point important sur les jets privés. J'ai appris, par exemple, que le kérosène que vous mettez dans votre jet privé n'est pas fiscalisé à la même hauteur que la fiscalité des carburants que vous mettez dans votre voiture.
C'est moins.
Voilà, oui, c'est beaucoup moins. Alors ça se comprend, si vous voulez, pour les vols commerciaux où vous mettez 200-300 personnes dans un avion, ça peut se comprendre. Mais en fait, un jet privé, c'est une limousine de luxe volante. Et je ne vois pas pourquoi, là, pour le coup, au nom de l'équité, il faudrait...
Là, il y aurait quelque chose à faire.
Exactement. Il faudrait que les taxes sur les carburants soient identiques sur les jets privés que celles que paye le quidam sur sa voiture.
Ça me paraît le minimum de justice. Si Jean Garrigue est au diapason des deux premières réactions.
Oh bah oui, je suis globalement au diapason de ce qui vient d'être dit. Et je vais rajouter quelques petits éléments quand même. Il faut, bon, l'humour là de Galthié est un peu malvenu, mais ça fait partie aussi de la relation qu'il entretient avec les joueurs aussi. Ça fait partie aussi de quelque chose qui est spécifique aux sportifs. Bref, c'était malvenu. Les réactions sont complètement disproportionnées, plus ou moins politiciennes, au sens vraiment négatif du terme. Mais quelques faits et qui sont encore plus éclairants. En réalité, cette polémique, elle est venue d'un responsable de la SNCF. Or, le Paris Saint-Germain est en négociation depuis plusieurs mois avec la SNCF, justement pour, disons, transformer ces modes de transport du jet privé vers le chemin de fer. Or, les négociations achoppent parce que la SNCF est impossible ou ne souhaite pas, ou en tout cas pour l'instant, n'a pas le pouvoir de les faire rentrer à Paris après les matchs, c'est-à-dire après minuit. C'est quand même un tout petit peu étonnant. Par ailleurs, le PSG, depuis quelque temps, essaye aussi de les faire venir en bus, en autocar, ce qui est assez normal, parce que quand ils vont à Lille, à Troyes, à Rennes...
C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils disent au PSG, c'est on fera bien l'effort lorsque ce sera possible.
Non, mais
ils sont en train de faire des efforts. Mais pour des raisons comme parfois, ce n'est pas possible.
Donc, si vous voulez, ça excuse d'autant moins le pataquès qui a été fait autour de ça, parce qu'en réalité, ils vont dans le bon sens.
Ouais.
Essayons là de...
Alors, bon, là, on les a un peu taclés sur un fourré qui dure. Et
ça, c'est vrai aussi que...
Non, ça va faire rire, moi.
On peut considérer justement que quelqu'un comme Kylian Mbappé peut avoir un devoir d'exemplarité, que donc dans ce contexte-là, ce n'est pas non plus très, très bien trouvé. Mais franchement, tempête dans un verre.
Sur le fond, ok. En tout cas, cette affaire, quand même, elle a pris une petite tournure presque d'État. Vous le disiez, c'est disproportionné. C'est remonté jusqu'à Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. On va l'écouter, puis je me tournerai vers vous, Florian.
Tout cela a été maladroit. Je sais que tous ces clubs réfléchissent à des modalités de transport en train. Tant mieux. La seule chose que je veux dire, c'est qu'il faut prendre le réchauffement climatique au sérieux. On peut toujours plaisanter, bien entendu. On peut toujours avoir un fou rire. Ça peut nous arriver à tous, à n'importe quel moment, comme c'est arrivé à Kylian Mbappé hier. Donc je ne jetterai certainement pas la pierre. Je dis simplement qu'il faut prendre le réchauffement climatique au sérieux.
D'accord. En tout cas, Florian, on voit que lui, par rapport à Agnès Pannier-Runacher, qui est un peu plus dans son rôle, parce que c'est son portefeuille ministériel, il redescend un petit peu d'un étage quand même.
Oui, tout à fait. Et Agnès Pannier-Runacher a la charge en ce moment d'appeler l'ensemble de la population à ce qu'on a appelé maintenant, dorénavant, et ce qui est dans le langage courant, la sobriété énergétique. C'est pour cela que peut-être elle tient un tout autre discours par rapport à Bruno Le Maire, qui lui est en charge des questions économiques. Et bien évidemment, on a compris que l'intérêt de Bruno Le Maire est que l'économie continue de fonctionner et que ce genre d'utilisation, par exemple, de jets privés se poursuive, même si on a compris que le gouvernement souhaitait réguler en tout cas ce type d'initiative et le fait que certains clubs utilisent ce genre de transport pour se rendre à tel ou tel événement. Ce qu'il faut dire, premièrement, c'est que là, on cible le PSG, qu'il y a une polémique autour du Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas le seul club à utiliser l'avion pour se rendre à des compétitions sportives. Il y a eu une étude de la Ligue de football professionnel en 2020 qui montrait qu'effectivement, les deux tiers des transports qui étaient utilisés pour se rendre à tel ou tel événement, le transport utilisé dans les deux tiers des cas, c'était l'avion contre 4% pour le train. Donc non, le PSG n'est pas le seul club à utiliser le train.
Mais là, il s'agit de commenter...
Bien évidemment, non, mais c'est aussi important de rappeler le contexte. Concernant ce qui s'est passé, bien évidemment, l'affaire est en train de monter, puisque et le gouvernement va réagir, et on a d'ores et déjà eu plusieurs personnalités politiques qui se sont exprimées à ce sujet. Mais la ministre des Sports devrait rencontrer les autorités du Paris Saint-Germain afin d'évoquer cette question. Mais voilà, oui, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. Bien évidemment, il faut appeler à la sobriété énergétique, puisque bien évidemment, les joueurs, y compris du Paris Saint-Germain, seront confrontés potentiellement, s'il y a des pénuries d'énergie, à ces mêmes pénuries, au même titre que l'ensemble de la population. Donc oui, c'est un sujet sérieux. Oui, bien évidemment, on peut parfois sourire ou avoir un peu, faire preuve d'un peu d'humour dans de telles circonstances, mais voilà. Cela reste un sujet sérieux et je rejoins effectivement ce qu'a dit par exemple Agnès Pannier-Runacher, même si je ne souhaite pas jeter la pierre à Kylian Mbappé à l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
On ne peut pas laisser ce sujet en si bon chemin quand même, parce que je ne résiste pas à la tentation de vous montrer quelques tweets à gauche. Oui, ça va vous faire réagir. Forcément, on va peut-être voir comment Anne Hidalgo, la maire de Paris, a réagi sur son compte Twitter. Non mais ça ne va pas de répondre des trucs pareils. J'essaie de faire de l'acteur studio, mais bon. On se réveille, les gars, ici, c'est Paris. Ludovine de la Rochère. Ah, peut-être un deuxième. Allez, un deuxième pour la route quand même et pour le plaisir. Un deuxième tweet. Benoît Payan, maire de Marseille. Regardez, votre mépris, dit-il, est un crachat en pleine figure. Vous êtes pathétique et triste. C'est aussi la planète de vos enfants qui brûle. Rien que ça. Non, mais c'est vrai, là, à les écouter, à les lire plutôt. L'heure est très, très grave.
Là, oui, on est dans la, collapsologie, dans l'effondrement, la fin du monde. Enfin, c'est complètement disproportionné. Et une fois de plus, la gauche se trouve moralisatrice, dictant le bien et le mal. Ça devient, c'est véritablement une religion pour eux. Et donc, toutes les attitudes, toutes les vies, tous les modes de vie doivent être examinés de très près et peuvent être punis très strictement. Moi, je note quand même que M. Galtier, quand il a parlé de char à voile, c'est dire qu'évidemment c'était une plaisanterie. Et c'est dire aussi, je voudrais quand même souligner le fait en effet que c'était lancé cette petite polémique, ou même cette grande polémique, par un responsable SNCF qui avait peut-être intérêt dans des négociations qui sont en cours et dans lesquelles la SNCF n'est pas forcément en très bonne position, puisqu'il y a un problème de, on peut imaginer, de moyens, oui, de personnel, de coûts, d'adaptation, etc.
Faire monter un peu la mayonnaise.
Voilà. Oui. Et de mettre la pression sur le club ou les clubs. Et puis du côté politique, ça leur permet d'éviter les sujets, de l'absence complète d'idées réelles qui puissent bénéficier au climat, et puis absence complète aussi de la polémique d'Emmanuel Macron rejetant le problème énergétique, ce qui est juste invraisemblable, sur EDF, sur les responsables d'EDF, et par ailleurs sur les problèmes énergétiques d'une manière plus générale. Ça permet de changer de sujet.
Jean Messia, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, c'est-à-dire que moi, je m'étonne, si vous voulez, de ce contraste absolument incroyable entre, d'un côté, le verbatim et la phraséologie martiale du président Macron, qui nous explique que nous sommes en guerre. C'est-à-dire, quand on est en guerre, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ce genre de considérations et de commenter des pointes d'humour d'un entraîneur ou d'un joueur d'un club de foot, si vous voulez. Ça ravale la déclaration de Macron au rang d'une déclaration presque ridicule ou grotesque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réaction d'Anne Hidalgo. Ici, c'est Paris, oui. Enfin, on se souvient quand même qu'elle-même avait emprunté un jet privé pour se rendre au Tour de France et que ça avait fait d'ailleurs à l'époque énormément jaser. Donc, avant de se moquer des autres, elle ferait mieux de balayer devant sa porte. Plus généralement, ces réactions, si vous voulez, de cocodès et de barbacole qui viennent nous expliquer, nous asséner des leçons de ce sur quoi il faut rire, pas rire, etc. Il y en a vraiment ras-le-bol, quoi. Enfin, laisser les gens vivre. Si on a des critiques à faire sur le fond, qu'ils les fassent. On peut très bien, effectivement, discuter du pourquoi, du comment. Mais je vous rappelle d'ailleurs que ce n'est pas si économique que ça de prendre le train. Rappelez-vous, le président François Hollande, en 2012, quand il avait décidé d'abandonner le fameux Air Sarco One de Sarkozy pour se rendre au fort de Brégançon en train, ça avait coûté très cher. Je ne suis pas sûr que l'empreinte carbone ait été moins importante, parce qu'il faut surveiller tous les ouvrages d'art au passage du président de la République par les forces de sécurité adaptées. Donc tout ça est un gigantesque cirque. C'est parfois les solutions qui ont l'air les plus simples ne sont pas forcément ni les plus coûteuses écologiquement, ni les plus coûteuses tout court.
Et bim, c'était le billet d'humeur de Jean Messia du jour. Jean Garrigue, allez, on va terminer là-dessus.
Non, mais c'est vrai qu'une certaine gauche s'est emparée de cette affaire. L'expression notamment du maire de Marseille, enfin qui n'a pas été élu d'ailleurs, mais du maire de Marseille,
le
crachat à la figure, mais on est quand même dans quelque chose qui est totalement délirant par rapport à une plaisanterie, bon, certes de mauvais goût, mais enfin qui n'était pas bien méchante. Et je ne suis pas sûr que
M. Galtier
soit plus pollueur que M. Payan. Donc tout ça est un peu ridicule. Une fois de plus, on est dans des postures politiciennes. En revanche, je ferai un peu moins de Macron bashing, parce que je ne pense pas que Macron a réagi justement là-dessus.
Non, non.
C'est pas là-dessus.
Non, mais il a fait un discours.
Mais c'est ministre quand même. C'est des ministres.
Mais par ailleurs, la veille, il a fait un discours sur les sujets énergétiques qui posaient quelques problèmes de responsabilité.
Allez, je vous interromps. On va parler sécurité dans un instant, car il y a une inauguration d'un commissariat de police à Paris et on va écouter Elisabeth Borne avec Gérald Darmanin.
Et que chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Donc moi, je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation.
Merci, mesdames et messieurs. Merci.
Merci beaucoup.
Merci. C'est terminé.
Bon, c'est dommage, on a juste raté le passage qui nous intéressait, c'est-à-dire qu'à ce moment-là précis, elle était en train de répondre à la polémique du PSG. Est-ce qu'elle avait déjà fait une déclaration publique d'ailleurs depuis
Elle n'avait pas réagi publiquement ouais, depuis ce qui s'était passé. Effectivement, là, c'est la première ministre qui s'exprime. On parlait à l'instant du président de la République. On entendra peut-être d'ici quelques minutes ce qu'elle a dit précisément sur ce sujet. En tout cas, c'est un sujet important dans le contexte actuel, même si on peut dénoncer une certaine hypocrisie, effectivement, des responsables politiques lorsque l'on voit, et je vais prendre un exemple, que nous nous félicitions collectivement en 2021, c'était l'année dernière, que l'Euro de football soit organisé dans 11 villes européennes. Imaginez le transport de l'ensemble des équipes, de l'ensemble du staff, de l'ensemble également des téléspectateurs issus de l'ensemble des pays européens et l'empreinte énergétique que cela a occasionné. Voilà, parfois il faut jeter un coup de regard dans le rétroviseur pour avoir une analyse complète du fait et ne pas polémiquer et réagir à chaud et être dans la posture comme le sont parfois certaines personnalités politiques.
Vous voulez vraiment, parce que là, on est en train de passer une demi-heure sur un sujet dont vous disiez vous-même c'est que vrai. C'était un non-sujet quand même.
Non, mais la question de l'humour, la question aussi des boucs émissaires qu'on choisit et les sujets qu'on masque, c'est un symptôme de cela. Moi, je pense que c'est pas parce qu'on a un trait d'humour qu'on veut humilier, ridiculiser, caricaturer, et qu'on n'a pas compris l'importance que ça pouvait avoir. En fait, il y a une surinterprétation, et d'ailleurs, on pourrait même dire que Mbappé, il a un rire un peu nerveux, il n'est peut-être pas à l'aise, comme on n'est pas à l'aise, quelquefois, on rit d'un sujet qui est en fait un sujet
triste. On peut imaginer pas mal de scénarios, peut-être qu'ils venaient d'en parler en disant « c'est sûr, on aura droit à cette question ».
Ils avaient dû en parler avant, et on surinterprète, enfin les politiques, certains surinterprètent, la gauche manque d'humour, et ça n'est pas nouveau.
On entend, on avance un tout petit peu, est-ce le début ou la fin d'une disgrâce en bonne et due forme? La justice ouvre une information judiciaire sur les dysfonctionnements de l'IHU Méditerranée, à l'époque précisément où il était dirigé par un certain Didier Raoult, ce qui fait suite à un deuxième rapport déjà accablant. Ses soutiens diront qu'il y a un opportunisme, une volonté sans doute aussi de vengeance de la part du pouvoir, à tort. En tout cas, Didier Raoult, écoutez, chez Jean-Marc Morandini, il disait carrément être harcelé.
C'est un épisode de plus dans le fait que je suis harcelé pour avoir dit ce que tout le monde fait maintenant, y compris sur les vaccins. C'est-à-dire qu'il faut faire des vaccins de plus de 50 ans, il ne faut pas vacciner les femmes enceintes, il ne faut pas vacciner les enfants. Je disais ça il y a plus d'un an. Dans ce rapport, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ça ne fait que trois lignes. Hein, mais on nous félicite de la prise en charge des gens qui avaient un Covid. Et puis, on a eu 7 inspecteurs pendant 6 mois qui ont essayé de trouver tout ce qu'ils considèrent comme étant des erreurs administratives pour confirmer quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à confirmer.
Alors, précision, Florian, vous avez, j'allais dire, vachement beaucoup suivi cette crise Covid, cette crise sanitaire, donc vous connaissez bien tous les tenants et aboutissants de vous avez pris connaissance de tous ces rapports. Didier Raoult, on le rappelle quand même, c'est pas la première fois qu'il se retrouve dans l'œil du cyclone, il a aussi été poussé vers la sortie pour ses activités. Il y a un sujet, il y a un cas, Didier Raoult, clairement, on a envie d'aller mettre le nez dans tout ce qui a pu avoir, de près ou de loin, eu affaire à lui.
Oui, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que l'analyse de Didier Raoult au tout début de la crise sanitaire pouvait être intéressante. C'est d'ailleurs pour cela qu'Emmanuel Macron était allé à sa rencontre pour avoir son avis sur ce qui était en train de se dérouler. Il a parfois eu des propos qui se sont révélés après exacts. Lorsqu'il a appelé au tout début de la crise sanitaire à faire énormément de tests pour voir qui était infecté, on a parfois estimé que ce que disait Didier Raoult était faux. Enfin, sur les tests, par exemple, la politique ensuite du gouvernement était testée, tracée, isolée. Donc sur ce point-là, il avait raison. Sur le point des variants, il avait également raison. Pourquoi aujourd'hui Didier Raoult est-il dans l'œil du cyclone? Tout simplement parce que sur le cas de l'hydroxychloroquine, qui est le traitement qu'il a préconisé durant cette crise du Covid et qu'il a continué à préconiser tout au long de cette crise, il avait tort sur ce point-là et il a souhaité, parfois en menant des analyses cliniques, en laboratoire, etc., démontrer qu'il avait raison. Or, énormément d'études au niveau international, il y a plus d'une centaine d'études qui ont prouvé qu'il avait tort sur ce point. Et c'est pour cela qu'il se retrouve à nouveau dans l'œil du cyclone.
Vous savez quoi? Il nous reste 20 secondes, donc j'aimerais pas qu'on résume cette thématique à cette seule intervention de Florian. J'aimerais qu'on y revienne plus longuement ensemble. Et on aura d'autres extraits à vous soumettre. On va faire une petite pause et puis on revient dans la deuxième partie de l'émission. On va s'arrêter un petit peu sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses, y compris donc la personne de Didier Raoult à proprement parler, mais aussi les dysfonctionnements qui sont critiqués et qui sont décelés dans cet institut. Là, il y a peut-être matière quand même à s'interroger. À tout à l'heure. De retour avec vous avant d'entamer la deuxième partie du débat. Le JT, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité en ce mardi, à commencer par ce déplacement conjoint d'Elisabeth Borne, flanqué de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pour inaugurer un commissariat dans le 3e arrondissement parisien. C'était il y a à peine quelques minutes. Ils ont échangé d'ailleurs avec ceux qui bénéficieront de ces locaux et surtout de la loi. Vous savez, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, c'était ça dont il était question aujourd'hui. Écoutons.
Cette inauguration, elle intervient à la veille d'une journée importante pour le ministère de l'Intérieur, avec la présentation en Conseil des ministres de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, qui va définir les moyens, à la fois budgétaires, humains, matériels, et puis aussi des nouveaux outils juridiques pour le ministère de l'Intérieur sur les 5 ans qui viennent.
Le travail.
À Ternay, dans le Rhône, la région décide d'installer des rochers sur une route très prisée des auteurs de rodéo. Solution radicale, mais nécessaire, estime la région, pour que les riverains retrouvent enfin un peu de quiétude. En un mois, plus de 200 opérations anti-rodéo ont été effectuées dans la métropole lyonnaise. On va écouter le maire de cette localité de Ternay.
Il faut savoir que le coin était devenu un secteur de ralliement pour grand nombre de motards. Et qu'on a pu compter, je crois, si je ne me trompe pas, plus de 50 motos. J'ai reçu dans mon bureau des gens effondrés, je dis bien effondrés, qui depuis 2-3 ans n'en pouvaient plus, qui partaient le dimanche, samedi, dimanche, dans de la famille ou chez des amis, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative, il était impossible d'aller sur la terrasse, le bruit était tellement fort qu'il traversait les vitrages. Donc c'était une vie épouvantable pour ces gens-là lorsque ces motos étaient sur site.
On va y revenir d'ailleurs à cette question tout à l'heure dans le débat. Faites-m'y penser. Et puis un peu de politique avec les parlementaires Renaissance qui font leur entrée aujourd'hui en Seine-et-Marne. Le groupe n'a pas exclu d'ailleurs d'avoir recours au fameux 49-3 afin de faire voter le budget si celui-ci venait à être bloqué par les oppositions. La présidente du groupe à l'Assemblée, Aurore Berger, a démenti tout passage en force. Écoutons.
Il n'y a pas de passage en force parce qu'on serait contraint demain à utiliser le 49-3. C'est-à-dire à un moment, on a aujourd'hui des oppositions, encore une fois, qui disent par avance que, quel que soit le contenu du budget, elles ne souhaitent pas le voter. Si jamais on était contraint de devoir utiliser à un moment des outils qui existent et qui ont toujours existé dans la Constitution, c'est parce qu'à un moment, on ne peut pas avoir un pays tout simplement qui est bloqué. Je pense que la responsabilité est dans le camp de l'opposition, de nous dire quelles sont les conditions selon lesquelles ils accepteraient ou non de voter le budget et de ne pas refuser par avance et par principe, le dialogue.
La suite du procès de l'attentat de Nice, aujourd'hui à Paris. Seconde journée où il est question d'exposer les faits. Bonjour Noémie Schulz, vous continuez de suivre cette audience pour nous. Il y a une question d'ores et déjà qui fait débat et on est toujours évidemment dans l'extrême émotion des familles, des victimes qui ont fait le déplacement, vous nous le disiez hier. C'est la question du visionnage des images de vidéosurveillance. C'est un petit peu long, mais on s'excuse pour la qualité sonore, enfin plutôt l'absence de son tout court. On ira la retrouver un petit peu plus tard, je vous le promets. Partons outre-Manche à présent, où Liz Truss est officiellement devenue première ministre britannique. Aujourd'hui, elle a été reçue par Elisabeth II, qui lui a confié la tâche de former un gouvernement. La passation de pouvoir, d'ailleurs, entre Boris Johnson et Liz Truss s'est tenue à Balmoral, en Écosse, au château de Balmoral, et non à Londres, comme le voulait jusqu'ici la tradition. Et puis, en quittant Downing Street, quand même, ce matin, Boris Johnson a eu quelques mots à l'adresse de ses troupes. Écoutez-le.
Le chômage, au moment où je quitte mes fonctions, est descendu à des niveaux jamais vus depuis que j'avais 10 ans et que je rebondissais sur un tremplin spatial. Mes amis, à propos de rebondir dans des carrières futures, permettez-moi de dire que je suis maintenant comme une de ces fusées d'appoint qui a rempli sa fonction. Je vais maintenant rentrer doucement dans l'atmosphère et m'écraser loin des yeux de tous dans un coin obscur et éloigné du Pacifique.
Voilà, toujours avec cet humour oh so British. Je vous promettais qu'on allait retrouver Noémie Schulz, c'est chose faite. Bonjour Noémie, je vous repose ma question. Il y a une question un peu essentielle qui pourrait alimenter évidemment ce procès, mais qui risque de choquer, c'est le visionnage des images de vidéosurveillance. Est-ce qu'on a tranché là-dessus ?
Président, on va devoir trancher assez rapidement. Faut-il diffuser les images de vidéosurveillance des 4 minutes et 17 secondes de l'attentat du 14 juillet ? Ces images, elles ont été placées sous scellé depuis l'attentat. Et toutes les autres, hein, celles qui n'ont pas servi à la procédure judiciaire, ont été détruites. Le président lui-même ne les a jamais vues. Un procès, explique-t-il, peut aider au travail de réparation, mais il faut réfléchir au prix à payer à ce visionnage. J'aimerais éviter le voyeurisme et le sensationnalisme. Je pense que ces images sont très difficiles à supporter. Alors du côté des parties civiles, les avis sont partagés. Les avocats ont bien sûr posé la question à leurs clients. Beaucoup semblent favorables à cette diffusion pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Il ne faut pas donner le sentiment que dans ce procès, une censure est intervenue, insiste un avocat. Mais pour certains proches de disparus, cette diffusion, ce serait au contraire une agression de plus. Ils trouveraient indécent de voir les corps de leurs proches projetés à l'audience, prévient un autre avocat. La question devra être tranchée dans les tout prochains jours, puisque les enquêteurs attendus à la barre en fin de semaine et la semaine prochaine évoqueront ces bandes de vidéosurveillance.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions en direct du Palais de Justice à Paris. Retour au plateau pour la suite du débat, toujours avec Ludovic de la Recherche, Jean Garrigue, Jean Messia et Florian Tardif du service politique de la rédaction. On parlait de Didier Raoult qui est un petit peu dans la tourmente, en tout cas son institut, puisqu'il y a une information judiciaire. Hein, maintenant, on est passé du stade d'enquête à information judiciaire, c'est quand même assez significatif, sur les fameux dysfonctionnements de cet institut hospitalier universitaire de Marseille. Didier Raoult, écoutons-le à nouveau lorsqu'il dit « Au fond, je suis une victime organisée ».
C'est le soin qui soigne les gens. Ce n'est pas les grandes déclarations ministérielles, ce n'est pas des nouveaux médicaments qu'on n'a pas eu le temps de tester, ni des nouveaux vaccins qu'on n'a pas eu le temps d'évaluer. C'est quelque chose, il faut revenir à la médecine. Et moi, écoutez, si je suis une victime organisée la vision que nous devons avoir actuellement, il ne faut plus voir le progrès médical comme nous l'avons vu, il faut analyser les choses d'une façon raisonnable et scientifique, si on ne veut pas le faire dans un moment, vous savez, ce n'est pas la première fois de l'histoire, et en particulier pas la première fois de l'histoire de France.
Hein. Jean Messia, ce qu'il nous dit au fond, c'est qu'on est peut-être allé un peu vite en besogne avec tous ces vaccins, ces propositions qui étaient faites aux Français, et lui, il voulait revenir à quelque chose de plus traditionnel.
C'est son droit.
Vous êtes d'accord avec ça ?
C'est son droit. Écoutez, je crois que Didier Raoult est une sommité en matière d'infectiologie, une sommité mondiale. Au même titre d'ailleurs que le professeur Perron, que Madame Henrion Caude, enfin tous ces grands noms de la médecine à qui on cherche aujourd'hui des noises, alors qu'on a laissé des gens comme Olivier Véran, dont on attend toujours le moindre papier de publier dans une revue scientifique, oui, venir nous expliquer la vie, quoi. Ça, c'est la première chose. Donc je ne comprends pas pourquoi la France, je veux dire, tire à boulet rouge sur ses scientifiques les plus éminents. Même s'ils doutent, rappelez-vous que faut se mettre dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est que personne ne savait rien sur rien. Or, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on viendrait faire un procès au gouvernement quand il nous disait que les masques ne servaient à rien ? Ou quand il n'avait pas mis assez de gel hydroalcoolique à disposition ?
Si, il y a eu un petit peu quand même.
Très bien. Très bien. Qui a été mis en cause ? Qui a démissionné ?
Il n'y en a pas eu. Allez, arrêtez avec votre silence.
Voilà.
On ne va pas créer un nouveau silence sur le plateau.
Peut-être, mais enfin, là, d'abord, il a été mis à la retraite, vous savez comment. Moi, j'ai pas eu l'impression, si vous voulez, que dans la manière dont la politique sanitaire et la politique de santé du gouvernement a été conduite, notamment au début, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un, un représentant. Mais si, c'est la question. C'est la question.
Non, ce qu'il vous dit, c'est que personne n'a été sacrifié quand même.
Personne n'a été sacrifié. Quand Sibeth Ndiaye disait on ne sait pas comment mettre un masque, on s'est moqué d'elle, mais je ne crois pas qu'elle ait été virée du gouvernement. Voilà. Donc c'est pareil.
Bon, Jean, revenons à nous.
La France a été la dernière à recevoir, un des derniers pays à recevoir les vaccins. Parce que nous avons préféré passer par l'Europe, etc. Qui a été condamné pour ça ou vilipendé pour ça ? Donc, je veux dire, OK, que le professeur Didier Raoult, on peut lui reprocher plein de choses. on peut voir ce qu'il y a dans le rapport, etc. Mais encore une fois, avant d'aller chercher des noises à un grand scientifique, le gouvernement ferait mieux de balayer devant sa porte.
Le gouvernement qui lui cherche des noises.
Mais bien sûr, bah, attendez, vous rigolez ou quoi ?
Il y a eu l'agence du médicament, il y a eu des rapports.
Mais
de
d'accord, mais tout
agences.
Ça, ce sont des institutions publiques.
L'enquête, l'enquête, c'est quand même le gouvernement qui a saisi le parquet.
Problème d'expérimentation illégale.
Non, l'espèce, l'information judiciaire, elle est ouverte à la demande du gouvernement.
Mais le dossier est très très lourd. Regardez un petit peu les rapports.
Ça dépasse. Alors justement, j'allais revenir.
Moi, je veux qu'on continue dans la victimisation du docteur Raoult, qui par ailleurs, comme vous le dites, est une grande sommité. Moi, j'ai l'impression que cette grande sommité, à un moment donné, dans cette crise du Covid, a été un tout petit peu rattrapée par la surmédiatisation, qu'il en a un petit peu perdu ses repères scientifiques, qu'il est un peu sorti de son territoire scientifique.
Vous êtes qui, vous êtes qui pour dire ça, en fait ? Parce que est-ce que vous êtes un scientifique ?
D'abord, je suis celui qui dit, j'ai l'impression, il m'a semblé, que le docteur Raoult, il me semble que c'était assez net, il publiait dans des revues qui n'avaient aucun rapport avec la science, qui étaient des revues politiques, il a joué un rôle politique, et je dis tout simplement qu'il me semble qu'il est sorti de son rôle de scientifique.
Quand le Lancet lance une étude complètement foireuse, qui a d'ailleurs été démontée 24 heures après...
C'est pas le Lancet qui lance une étude, c'est
publié dans le Lancet. Non mais le Lancet, c'est quand même une revue reconnue mondialement... Mais qui fait référence.
Ça n'exonère pas Didier Raoult.
Mais oui, mais le problème, c'est que
l'analyse de données scientifiques.
Peut-être, mais c'était une arnaque totale qui a été démontée en 24 heures. Ce que je dis, c'est que ça devient politique à partir du moment où on choisit ses victimes, on choisit ses cibles. C'est-à-dire que tout le monde se soit trompé, que ce soit en politique ou parfois en science, pas de problème. C'était l'époque qui voulait ça. Personne ne savait rien sur ce virus. Mais à partir du moment où ex post vous choisissez de dire « je poursuis un tel » ou « je poursuis un tel », mais un tel, je le laisse à l'écart, là, ça devient politique et là, ça devient critiquable.
Allez, s'il vous plaît, parce qu'on va essayer d'intégrer Ludovine de la Recherche dans cette discussion, simplement pour mettre un bémol, parce que je ne peux pas toujours être d'accord avec tout le monde, et on va me dire « vous n'êtes jamais d'accord avec Jean Messia, je l'entends déjà et je l'attends déjà ». Non, c'est juste, je mets un bémol à ce que vous dites, je me fais l'avocat du diable, dans le sens où l'information judiciaire, elle porte sur les fonctionnements de l'IHU et pas sur le rôle de Didier Raoult. En tant que personne. Non, c'est juste ça, parce que apparemment il y a eu des questions au sein.
Lui se victimise.
Lui se victimise, mais il y a
justement.
Voilà, il y a des choses qui se seraient passées au sein de l'IHU en termes de harcèlement, de relations. Oui, mais enfin, il peut pas tout gérer de son propre chef non plus. Ludovine de la Rochère, ça va un petit peu plus loin que la seule personne de Didier Raoult, quand même, l'affaire.
C'est-à-dire qu'on ne peut que s'étonner de la concomitance qu'il y a entre la sortie du pire de la crise Covid, qui nous dit que ça n'est pas fini. Et le fait qu'il y ait une enquête qui dure depuis des mois et des mois, qui était d'abord une enquête administrative, en l'occurrence sur le service ou les services, l'instance dirigée, l'institution, pardon, dirigée par Didier Raoult. Moi, je vais vous dire très honnêtement, je ne sais pas quel bilan il faut tirer, pour le moment d'ailleurs, de la crise d'une manière générale. Oui. Elle a été très complexe, elle a été pleine de contradictions, je pense pour ma part qu'elle a été pleine d'excès, pleine d'imprudence. Par ailleurs, Didier Raoult, il est très difficile de savoir ce qu'il en est. Je vais vous donner un exemple. J'ai lu un jour qu'il y aurait beaucoup moins de morts du Covid dans son service parce qu'en fait, à un certain niveau de gravité, les malades de son service étaient transférés à l'hôpital de Marseille. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. À mon sens, cela mériterait en fait une véritable enquête à distance, avec du recul, mais un travail véritablement important si on veut espérer se faire une idée des choses. Finalement, chacun croit, pour les uns, les sources, j'allais dire officielles, gouvernementales, pour les autres, tout ce qui vient du gouvernement est faux et n'est vrai que ce qui vient de certains sites ou de certains réseaux sociaux. Et donc, finalement, c'est très difficile de savoir. Je pense que c'est complexe. En l'occurrence, que ce n'est pas tout noir ou tout blanc, tout simplement.
Ce n'est pas la première fois, quand même, Florian, vous me corrigez si je me trompe, que l'IHU est dans l'œil du cyclone en tant qu'entité, parce que cette affaire, elle a aussi une dimension très politique. Il y a toujours eu, une rivalité entre l'IHU, qui était un petit peu, qui faisait cavalier seul, qui avait une grande latitude et une grande liberté, et le système des APHP. Cette rivalité-là, ancestrale, elle a toujours existé à Marseille.
Un système et une rivalité qui est liée au financement des deux. Et pour revenir à ce qui était dit juste à l'instant, s'il y a un bilan à tirer de cette crise sanitaire, le bilan à tirer, c'est que le temps politique n'équivaut pas au temps médiatique, n'équivaut pas au temps médical. Et le problème, c'est que chacune des parties, que ce soit les politiques, les médias ou les médecins, et Didier Raoult en est un exemple à nouveau ce matin, a mélangé l'ensemble de ces trois temps. Malheureusement, il est en train de faire de la politique ce matin. Il est en train de médiatiser l'affaire et l'ensemble des débats qu'il a pu avoir avec ses homologues, ce sont des débats qui existaient bien avant la crise du Covid. Et sauf que ces débats-là n'étaient pas médiatisés et n'étaient pas politisés par l'ensemble des acteurs. Et d'ailleurs, on devrait également prendre part à ce débat.
On aurait du mal à imaginer qu'ils ne disent rien non plus.
Oui, mais malheureusement, on aurait du mal à imaginer qu'ils ne disent rien, tout simplement parce que depuis le début de cette crise sanitaire, il dit beaucoup. Non, mais peut-être trop, et comme l'ensemble des acteurs politiques, et comme par exemple dans les médias.
L'incroyable compétition entre les scientifiques, entre les équipes et entre les pays, et cela, on n'en a pas conscience quand on fait partie, quand on n'est pas dans ce milieu-là. Que Didier Raoult pense qu'il y a une concomitance étrange et qu'en fait c'est une vengeance, une poursuite personnelle, ça s'entend, d'autant qu'il a considérablement dérangé et contredit les pouvoirs publics.
C'est le style de Macron.
Moi, je pense, si vous voulez, que...
Mais le problème, c'est que le but d'un médecin ne serait pas, enfin, d'un infectiologue, dans le cas présent, de déranger le pouvoir. Il n'est pas là pour déranger le pouvoir. Il est là pour éclairer.
Il est là pour déranger les certitudes.
Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on dit qu'il est là pour déranger le pouvoir... C'est-à-dire qu'on politise son action. Et son action ne devrait pas être politisée.
Mais il me semble quand même...
Allez, Jean Garrigue, s'il vous plaît.
Il me semble quand même qu'une large partie de la communauté scientifique, à un moment donné, ont été en porte-à-faux et en opposition aux thèses du docteur Raoult. Peut-être qu'ils avaient tous tort, mais il me semble que statistiquement, si vous voulez, si on faisait une équivalence quantitative, on verrait quand même qu'une majeure partie des spécialistes, des infectiologues, etc.
On ne va pas revenir non plus au débat d'il y a un an, deux ans.
Après, moi, je ne sais pas, il a peut-être raison.
Ce que lui dit, en tout cas, c'est que les études n'ont jamais réellement appliqué et testé avec ces recommandations qui étaient données en amont dès le début du traitement. Personnellement, je n'ai pas lu les études, donc je n'en sais rien. Et finalement... J'allais dire, on n'a pas encore tout à fait le fin mot de l'histoire sur l'hydroxychloroquine. Et puis après, au-delà...
Il y a eu des centaines d'études qui ont démontré, même si, effectivement, et c'est bien que vous le souligniez, il n'y a jamais eu d'études reproduisant spécifiquement le traitement du professeur Raoult. Mais il y a eu des centaines d'études, et je peux vous dire que j'ai passé énormément de temps sur ces études.
Il y a des personnes qui ont dit que ça avait marché pour elles, quand même.
C'était un débat.
Il y a des personnes qui disent qu'on a été sauvés par un traitement précoce, quand même. Ça, c'est indéniable.
Il y a des personnes qui le disent, mais bien évidemment, sauf que il y a comment savoir si elles ont été sauvées par ce traitement ou si elles ont été sauvées par l'action de leur propre corps.
C'est tout à fait vrai, mais s'il n'y a pas étude dans les conditions qui sont recommandées.
Malheureusement, oui, encore.
En fait, rien ne dit ce qui était bon, exact. Ou pas,
les rapports qui sont publiés ne portent pas que là-dessus. Attention, il y a toute la gestion, le management, du harcèlement moral à l'intérieur de l'IHU.
C'est pas que sur le traitement.
C'est un rapport qui est accessible en ligne.
C'est sur l'institut en tant qu'entité, la manière de manager les équipes,
la pression, de réaliser également les essais cliniques. Lorsque l'on lit le rapport, selon plusieurs anciens internes, les patients sont juste informés, ne seraient pas aptes à donner leur consentement, ce qui pose un problème légal et éthique lorsqu'ils participent aux essais, par exemple.
C'est un aspect parmi d'autres.
C'est un aspect sur un rapport de 200 pages.
Ils ont dirigé cet institut pendant des dizaines d'années et tout d'un coup, on s'aperçoit que...
Il y a une coïncidence. Après, il y a évidemment une coïncidence qui est bizarre. Et puis, franchement, un gouvernement qui a viré 15 000 soignants qui a foutu le bazar dans les hôpitaux, qui vient donner des leçons sur un microclimat à l'IHU de Méditerranée. Excusez-moi, là encore, ça pose problème, c'est très énervant.
Mais c'est pas le gouvernement, ce sont des rapports. Mais c'est dingue. On est dans un état de droit, il y a des rapports.
Là, pour le coup, attendez.
Je comprends pas cette parce que vous avez une sympathie personnelle pour le.
Mais pas du tout. Mais ne soyons pas naïfs, Jean.
Cette tentation d'exonérer.
Soyez pas naïfs.
Mais toutes ces institutions, elles sont nommées, ses membres.
Exactement. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'un directeur d'administration centrale
inverse dans le complotisme?
Pas dans le complotisme.
C'est pas que je dis. Je ne sais pas.
C'est une chaîne. Attendez.
En tout cas, à tout le moins, dû enquêter avant si vraiment il y avait des problèmes si importants. Ils ne l'ont pas fait. Ou attendre un peu plus longtemps. De manière à ce qu'il n'y ait pas, à ce que ce ne soit pas troublant.
Juste un dernier mot.
Il n'y a pas de position.
Un autre moment de l'interview, je crois, chez Jean-Marc Morandini, ça me revient là. On n'a pas l'extrait à proprement parler. Il dit quand même à propos de la crise hospitalière. Il dit voilà, on vient un peu nous chercher des noises sur le fait que les gens auraient été harcelés, soumis sous pression, que les équipes auraient été mises à rude épreuve. Or, chez moi, il le dit, je me souviens très bien, il y a eu un taux d'absentéisme qui était trois fois moindre que celui de la PHP. Et il dit aussi, et là-dessus, il a raison, les médecins et les professeurs de renom, parfois de la PHP, sont en train de fuir vers le privé parce qu'il y a une situation là aussi qui est intenable. Alors, on ne va pas faire une enquête pour l'instant sur la PHP. Hein.
C'est ce que je disais.
Non, mais il ne dit pas que des bêtises non plus.
C'est dommageable dans le cas de Didier Raoult. C'est-à-dire que parfois, bien évidemment, il dit des choses qui sont exactes. Lorsqu'il parle des tests, lorsqu'il parle des variants, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai. Lorsqu'il évoque la situation dans les hôpitaux, c'est vrai. Et c'est pour cela qu'il est dommageable que, par exemple, sur l'hydroxychloroquine, il maintienne ses positions alors qu'il y a des centaines d'études qui peuvent contredire ses propos. Et là, bien évidemment, il a raison de soulever ce problème et il a raison de dire qu'il y a une fuite des cerveaux, entre guillemets, vers les hôpitaux privés, tout simplement parce que la situation dans ces hôpitaux-là ou dans ce secteur-là est bien meilleure. Bien évidemment. Et heureusement qu'il y a, et c'est ce que je disais tout à l'heure, des médecins pour éclairer le débat
public. Ce qui est scandaleux, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de Pravda qui, si vous la contestez, bah vous vous retrouvez derrière le soleil. Quoi. Regardez le sort qui a été réservé au professeur Perron, par exemple. C'est quand même extraordinaire, un grand scientifique. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Bien sûr que lorsque les institutions de l'État, qui ne sont que des administrations, lancent des enquêtes administratives sur telle ou telle autre institution, ce n'est pas neutre, ce n'est pas des institutions indépendantes. Elles ont une chaîne de commandement administratif qui remonte jusqu'aux politiques, évidemment.
Il se pourrait que les critiques formulées dans le rapport aient un fond de vérité. Et que, sur le plan scientifique, une majorité, je le répète, de la communauté scientifique puisse estimer que le docteur Raoult s'est trompé.
Mais peut-être, non, mais c'est pas le
genre.
Mais
encore une fois, c'est pas une vérité absolue. Et est-ce que la pensée unique doit prévaloir?
Mais je pense. Non, mais
même les scientifiques eux-mêmes disent, on peut douter.
Non, mais en gros, en l'occurrence, c'est le. Pardon, mais je me souviens très bien du débat, à un moment du débat sur le Covid, la pensée unique, c'était celle du docteur Raoult, notamment dans les médias.
Sur l'hydroxychloroquine,
il dominait en permanence les médias.
Il était souvent sur CNews.
Pour connaître un tout petit peu le milieu scientifique, vous savez, il y a aussi des choses dans le milieu scientifique qu'il ne faut plus dire, qu'il ne faut pas dire, et il vaut mieux penser le contraire ou regarder ailleurs, dans le milieu scientifique aussi. Et moi, je pense qu'au fil du temps, soutenir Didier Raoult devait devenir dangereux. Et d'ailleurs, on voit bien ce qui arrive à Didier Raoult lui-même. Et par ailleurs, sur l'hydroxychloroquine, j'y reviens, il y a peut-être eu des centaines d'études, mais si ce n'est pas les conditions qui étaient recommandées par Didier Raoult, ça ne prouve rien. Ouais. Ça ne prouve rien.
Il y a eu des centaines d'études, ce n'est pas exactement la posologie, mais je peux vous dire on ne va pas commencer à faire ce que je critiquais tout à l'heure, à mélanger le temps politique, médiatique et médical. On est en train d'entrer dans ce système-là qui, malheureusement, et je pense que c'est
le problème, si vous voulez, c'est qu'il se soit trompé ou qu'il ait dit des inexactitudes, etc. Mmh. Très bien. La question, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce que pour avoir douté, est-ce que pour avoir envisagé des pistes qui finalement ne se sont pas avérées aussi efficaces que ça? Ça s'appelle le travail scientifique. Quand vous naviguez à vue, exactement. Nous sommes aujourd'hui dans un système qui n'admet pas la critique. Regardez, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Quand M. Lévy critique la politique énergétique du gouvernement en matière de nucléaire, il se prend un scud par le président de la République et vous allez voir, ça serait guère étonnant que dans quelques mois, on ordonne une enquête pour voir comment ça a été géré EDF du temps de M. Lévy. Alors ça, ce sont des méthodes, si vous voulez, qui sont parfaitement détestables et c'est des méthodes qui sont propres à tuer le génie français, quelque part.
Allez, vous avez entendu la petite musique, ça veut dire que le temps qui vous était imparti est écoulé. Mais là, c'était passionnant comme débat, et ça repose des questions de fond qu'on avait presque oubliées. On va s'interrompre à nouveau et puis on revient pour la dernière partie de l'émission. On parlera de la pornographie sur les réseaux et sur Internet. Est-ce qu'il faut mieux la réguler pour faire en sorte que les enfants ne soient pas marqués à vie par cet apprentissage? On se pose la question ensemble, là, tout de suite. Minute info. Ah, ça marchait pas très bien. Les sites pornographiques vont-ils être bloqués en France? On va se poser la question ensemble juste après le flash info de Clémence Barbier.
En Suisse, les autorités ont fait une drôle de découverte à l'intérieur d'une camionnette. 23 réfugiés afghans, syriens, indiens et bengalis, les uns sur les autres. Parti du nord de l'Italie, le véhicule se dirigeait en direction de la France. Le passeur présumé a été arrêté. Il nie les faits. L'Agence internationale de l'énergie atomique doit rendre aujourd'hui son rapport sur la situation de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les forces russes. Sa publication sur la situation en matière de sûreté et sécurité en Ukraine intervient au lendemain de la déconnexion du dernier réacteur en fonctionnement de la centrale. situées dans le sud du pays. C'est le retour de la Ligue des Champions ce soir. Le PSG reçoit la Juventus à 21h. Paris nourrit toujours la même ambition, inscrire enfin son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Le match est à suivre, bien sûr, sur Canal+.
Merci beaucoup. Allez, on reprend notre discussion. C'est un sujet sérieux. L'ARCOM, hein, qui régule les médias et Internet, estime aujourd'hui que 5 sites pornographiques, on ne va pas les citer, comme ça, ça ne vous donnera pas d'idée, n'empêchent pas suffisamment leur accès aux mineurs et demandent tout simplement leur blocage au tribunal de Paris avec de vraies raisons derrière sur le formatage mental des mineurs, leur manière d'aborder la sexualité une fois qu'ils parviendront à l'âge adulte. Tout ça sont des questions très sérieuses que va nous résumer Sandra Buisson.
Filtrer l'accès des mineurs aux sites pornographiques en demandant simplement à l'internaute de cliquer sur un bouton pour certifier qu'il est majeur n'est plus suffisant depuis la loi de juillet 2020. Le système de blocage des mineurs doit aujourd'hui être plus efficace. Malgré une mise en demeure en décembre 2021, les sites internet de pornographie ne se sont pas mis en règle. L'ARCOM, l'ex-CSA, demande donc à la justice de sévir et d'obliger les fournisseurs d'accès à internet tels qu'Orange, SFR ou Free à bloquer totalement l'accès de 5 sites pornographiques en France. Écoutez les précisions de l'avocat représentant l'ARCOM.
Le fait de fournir un contenu à caractère pornographique sur un site internet est un délit pénal dès lors que les mineurs y ont accès sur simple déclaration de majorité. L'objectif aujourd'hui n'est pas d'interdire la pornographie pour les majeurs, il est de l'interdire pour les mineurs, en tout cas de faire en sorte que ces mineurs n'y aient pas accès. C'est ça le plus important.
La CNIL a proposé en juillet des solutions pour permettre de filtrer plus efficacement les mineurs en demandant par exemple une carte d'identité ou une carte bancaire pour accéder au contenu ou en utilisant l'analyse faciale du visage de l'internaute. Mais le représentant d'un des sites de pornographie visé martèle que ces solutions ne seraient pas non plus efficaces à 100%. D'abord parce qu'il existe des centaines d'autres sites similaires accessibles depuis la France. D'autre part parce qu'il suffirait à l'internaute de se munir d'un VPN pour se localiser à l'étranger et avoir accès au contenu. Les sites pornographiques craignent également que ces mesures d'identification fassent fuir les internautes majeurs, plus enclins à la préservation de l'anonymat quand ils visionnent ces contenus. L'audience était consacrée ce mardi à une question de procédure et le débat sur le fond n'aura lieu que dans quelques semaines si la médiation proposée lors de l'audience par le tribunal ne donne rien.
Jean Garrigue, est-ce que c'est une mesure qui est souhaitable aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit ?
Écoutez, moi je serais de toute manière pour interdire les smartphones jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc oui, je ne suis pas un modèle de tolérance. Non, on est dans une société effectivement où cette pornographie en libre accès finalement donne aux jeunes une vision totalement déformée de ce qu'est, de ce que sont les rapports entre un homme, une femme, entre deux hommes, entre deux femmes. Enfin, tout ce qu'on voudra. J'ai peur que ça soit c'est le mythe de Sisyphe. Voilà, on essaye de trouver des parades, de durcir un peu la législation, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors micro. Les Britanniques ont essayé d'avoir des modes de reconnaissance faciale ou autre, ou par des documents officiels. Et c'est une usine à gaz. C'est extrêmement compliqué d'empêcher les gamins d'accéder à ce type de...
Pour l'instant, rien ne dit que le tribunal va suivre.
C'est dire aux parents, quoi. Ouais. Voilà, les parents, faites jouer votre rôle.
On ne sait pas encore si l'ARCOM obtiendra gain de cause, hein, puisque Sandra l'expliquait très bien. On est sur une question de procédure et pas encore sur une question de fond. Ça veut dire que le débat ne fait que commencer. Mais sur le fond, sur le plan philosophique, est-ce que c'est une bonne chose selon vous ?
Écoutez, c'est un sujet qui est très compliqué parce que d'un côté, il ne faudrait pas tomber dans une sorte de société puritaine où tout est interdit. Oui, et de l'autre côté, il faut évidemment protéger les enfants et les adolescents. Donc l'équation n'est pas très facile à résoudre. Moi, si vous voulez, l'idée que j'ai, en réfléchissant un petit peu à la question, je trouve que c'est aux parents de surveiller leurs enfants et de surveiller leurs adolescents. On ne peut pas non plus tout confier à l'État et procéder à des interdictions généralisées pour pallier finalement l'incapacité des parents à contrôler leurs enfants et à vérifier les sites qu'ils consultent, etc. Parce que si vous voulez, si on étend à ce moment-là la logique, Ben pourquoi pas interdire tant qu'on y est les jeux vidéo violents, par exemple, qui participent aussi à la violence de la société, puisque c'est évidemment dans un jeu vidéo violent, c'est évidemment une caricature sanglante de ce que peut être la société. Alors, donc, si vous êtes connecté 24 heures sur 24 sur ce type de jeu, ça altère aussi votre rapport à une forme de réalité. Donc à ce moment-là, on va faire quoi? On va tout interdire.
Ok, on a compris Jean, votre propos. On va écouter, pour rebondir justement ce que vous disiez à propos du contrôle parental. Écoutons Marie-Estelle Dupont, elle est psychologue et auteure, et elle revient précisément sur cette question.
Plus un enfant est jeune, plus les images que son cerveau perçoit vont s'intégrer et structurer en fait la représentation qu'il a de ce qu'il voit. Donc au niveau neurobiologique, avoir accès à des images pornographiques quand on est tout petit va être quasiment de l'ordre du viol psychique, c'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas forcément les comparer à d'autres images de la sexualité. Il ne pourra pas non plus les conscientiser ou les verbaliser. L'interdiction qui est déjà inscrite dans le code pénal, en fait, l'idée là, c'est de la rendre avec cette réglementation plus efficace, de manière à ce que l'accès, qui est très variable en fait selon les foyers, hein, l'accès aux écrans et aux sites pornographiques, soit déjà régulé en amont pour que les parents qui, par exemple, sont divorcés, donc chez l'un c'est très contrôlé, pas chez l'autre, ne prennent plus ce risque en fait de voir leur enfant exposé sans qu'ils le sachent à des sites pornographiques.
L'avis de Ludovine de la Rochère à présent, qui nous intéresse évidemment.
Alors, dans la pornographie, il y a plusieurs problèmes. Hein. Il ne faut pas oublier aussi ceux qui produisent de la pornographie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a l'accès des jeunes, trop jeunes, et même 18 ans, c'est encore jeune, à la pornographie, et même sans le vouloir. De manière, par exemple, un enfant qui fait un exposé pour l'école, j'ai vu l'histoire un jour, il fait des recherches sur les planètes et il tape le mot Vénus et il tombe sur de la pornographie. Et elle fait des ravages et on sait qu'elle crée des addictions, que ça concerne des enfants de plus en plus jeunes. Moi, je vois des directeurs d'établissements scolaires qui ne savent plus comment faire. Au collège, les addictions, cette addiction-là touche presque tous les jeunes. Et le drame, c'est une certaine forme de viol psychique, viol de leur conscience, de leur intimité. Ils ne savent pas s'en défendre, ils n'osent pas en parler. Tous les copains font pareil, donc de toute façon, ils croient que tout va bien, c'est normal. Et n'importe quel sexologue ou éducateur, je pense à Israël Nizan, à Valérie Ternac, à Inès de Franlieu, témoigne et raconte beaucoup de cas dans lesquels les enfants venaient poser des questions qu'on n'imaginerait pas parce que nous faisons la différence, mais eux ne peuvent pas la faire. Par exemple, un jeune garçon, un adolescent qui était très inquiet, traumatisé, angoissé, parce qu'il ne parvenait pas, pardonnez-moi, à éjaculer à 20 mètres de distance. Et il pensait que ça n'était pas normal, c'est ce qu'il voyait dans les films de pornographie. Ou un autre qui disait « Moi, je ne comprends pas pourquoi les filles préfèrent les chiens plutôt que les hommes. » C'est ce qu'il avait vu visiblement dans des films de porno.
Il pense qu'après, ça devient la norme.
Des tas d'idées délirantes.
Ça biaise les rapports hommes-femmes et l'image de la femme aussi, accessoirement.
Oui. Et l'autre certain,
non, mais pour certains, qu'il ne faut pas la part des choses.
Pour les actrices et les acteurs, c'est extrêmement dégradant. J'entends, c'est un autre sujet, mais en tout cas, leur image est très dégradée. Et puis, les relations que ces enfants vont avoir, qu'ils croient devoir aussi avoir très jeunes, ils croient devoir être des champions et au-delà de ce qui correspond à la réalité sexuelle des hommes ou des femmes.
Ça peut induire un sentiment d'échec après.
Exactement. Ouais. Et c'est l'un des grandes difficultés. Et cela bousille les relations qu'ils peuvent créer petit à petit avec des garçons ou des filles, en sachant qu'elles impliquent le corps, mais qui n'est pas une mécanique, c'est pas que du fonctionnement, c'est pas un sport, et qui doit en principe appliquer aussi le cœur et la tête, c'est quand même fondamental. Pour revenir à ce que disait Jean sur les parents, la société, l'État peut aussi ne pas aller contre l'éducation qu'on essaye tous de donner à nos enfants, c'est-à-dire qu'il peut essayer de faciliter. La société ne fait qu'aller contre, ne fait que rendre plus compliqué le fait d'élever des enfants. Si au moins l'État peut jouer un rôle positif, et il y a des moyens. Eh bien, par exemple, je vais vous dire, la France pourrait intervenir pour que par défaut tous les navigateurs soient réglés sur le contrôle parental. C'est beaucoup, parce que ça concerne les textes et les images et les vidéos. C'est
allez,
beaucoup
merci.
Plus efficace
on y
que
viendra
les logiciels
peut-être
de contrôle parental. Il faut de la volonté politique. C'est impératif.
Merci beaucoup.
On peut.
Merci, mais on n'a pas fini d'en parler puisque ça ne fait que commencer le débat, on le rappelle, au tribunal de Paris. Merci à tous les quatre de m'avoir rejoint cet après-midi. Dans un instant, on passe le flambeau à Laurence Ferrari, bien sûr. Ce sera le début de Punchline. Vous y serez ?
Non.
Pas ce soir. Eh bien, en tout cas, on a eu grand plaisir à vous recevoir dans 90 minutes. Vous revenez quand vous voulez, cher Florian. Excellente soirée sur notre antenne.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.